With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec bien sûr l'excellent, comme d'habitude, Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes et à tous, merci de m'accueillir encore pour une belle émission. Poulain Rafut, vous le savez, hein, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine un nouvel épisode directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité plutôt discret, mais qui prend la parole de temps en temps et c'est souvent assez fort.
Oui Arnaud, 300, c'est le nombre de matchs de haut niveau disputés par notre invité en 15 ans de carrière. Et ça n'est pas fini pour Maxime Machenot. C'est peut-être un détail pour vous, mais ces chiffres montrent l'énorme régularité du bonhomme qui, à 33 ans, joue sa dernière saison avec le Racing 92 où il aura joué 10 saisons avant de rejoindre l'Aviron Bayonnais. Formé au Stade Bordelais, puis au CABBG, avant de rejoindre Agen où il explose en top 14 en 2010, c'est en 2012 qu'il rejoint le club des Hauts-de-Seine. Pour moi, Maxime Machenot, c'est un peu le gendre idéal, un jeune premier, doué, talentueux, qui décolle d'ailleurs assez bien à l'image du club ciel et blanc. C'est aussi une forme d'éternelle jeunesse, un professionnalisme et une maturité aguerrie au fil des matchs compliqués en équipe de France ces 10 dernières années et avec le Racing 92. En 15 ans, il a tout connu du rugby pro, l'ivresse de la victoire avec ce bouclier conquis en 2016 au Camp Nou, mais aussi la défaite avec 3 finales de Coupe d'Europe perdues ou encore l'équipe de France avec laquelle il a joué 38 fois. Au-delà du nombre de matchs et du joueur, connaît-on véritablement l'homme derrière le sportif, ses galères, comment a-t-il vécu son évolution de Bordeaux à aujourd'hui, d'Agen à Paris, victorieux de l'ASM ce week-end, il nous parlera de son parcours, de ce club atypique qu'est le Racing 92, de sa vie d'homme et de son futur projet familial et professionnel à Bayonne. Merci Maxime d'être dans Poulain Rafut, salut.
Salut, merci Raphaël pour la présentation et merci pour l'invitation.
Max, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Tu as fait une annonce il y a quelques semaines maintenant de quitter le club où tu évolues depuis 10 ans, le Racing, pour rejoindre l'Aviron Bayonnais. Est-ce que tu peux nous parler et développer un petit peu les raisons de ce choix?
Oui, c'était un choix difficile à faire. En tout cas, voilà, avec ma femme, c'était un choix aussi que j'ai réfléchi avec ma femme. En famille aussi, parce que maintenant, voilà, je suis plus célibataire ou en couple. Voilà, et aussi, on fait des choix par rapport à notre famille. Et j'avais l'occasion de peut-être rester un an de plus au Racing. Mais on se posait la question, est-ce qu'on n'avait pas envie de changer de milieu? Ça faisait 10 ans qu'on était à Paris, qu'on a passé de super moments. Et peut-être que c'était le moment de changer aussi, de voir autre chose. Et pour ne pas avoir de regrets à la fin de ma carrière et se dire que voilà, est-ce qu'on aurait pu peut-être tenter notre aventure. Et voilà, on est à la recherche par rapport à ça. Moi, sportivement aussi, j'ai encore de l'ambition. Je ne vais pas à Bayonne pour me finir ma carrière tranquille. Bien au contraire, j'ai beaucoup d'ambition encore. J'ai la volonté de jouer un peu plus longtemps. Donc, c'était ce choix. J'avais aussi l'opportunité de signer dans un autre club de top 14. Voilà, je sais que je n'ai pas la certitude l'année prochaine de jouer en première division, mais c'était un choix qui me plaisait au niveau sportif, au niveau de l'ambition que Bayonne a, et surtout au niveau familial, qui était important de se retrouver dans une région qu'on connaît un peu et il paraît qu'on peut bien s'y sentir.
Justement, tu l'évoques, la non-certitude de pouvoir évoluer en top 14 la saison prochaine. Hein, on le rappelle, Bayonne évolue actuellement en Pro D2, même si le club basque joue les premiers rôles. Est-ce que ça a été un élément de réflexion important? Et est-ce que éventuellement, si par malheur pour les Basques, le club ne parvenait pas à remonter, est-ce que tu te sens prêt à jouer et à découvrir, parce que je crois que tu as déjà évolué en Pro D2, mais à rejouer dans cette division qui est un championnat très dur, hein?
Vous savez, j'ai fait ce choix de ne pas avoir la certitude, comme tu dis, de jouer en top 14. alors que j'avais peut-être la possibilité de continuer dans ce championnat qui est excitant et tout ça, mais j'ai choisi un club aussi qui a des ambitions, qui met les moyens aussi pour y arriver. Je ne pense pas que je serais parti dans un club qui n'avait pas cette ambition de jouer le maintien rapidement. C'est pour ça que, voilà, comme je dis, on n'a jamais cette certitude. Ils ont, je pense, l'équipe pour pouvoir monter cette année. Mais si ce n'est pas cette année, j'espère que je vais pouvoir aider avec l'ensemble du groupe à évoluer rapidement en première division.
Ça, c'est une question que j'aimerais vous poser à tous les deux. Quand on est sportif de haut niveau, l'incertitude sur les choix de carrière, c'est quand même quelque chose qui doit être pesant d'un point de vue familial, d'un point de vue même personnel, non ?
Bah, je pense que c'est quand même assez délicat. Passé, je dirais, 27-28 ans, à 20-25 ans, tu as plus de facilité à prendre tes meubles, à prendre ta cuisinière sur lesquelles tu fais tes carbonara. Et par contre, 27-28 ans, c'est le moment où... voilà, tu peux être en couple, donc c'est le moment aussi où les enfants arrivent, donc les choix ils doivent être faits aussi au niveau de la famille, parce que on pense souvent aux sportifs, mais est-ce qu'on pense vraiment aussi à la personne qui est à côté? Voilà, le mari ou la femme du sportif ou de la sportive doit aussi pouvoir s'intégrer dans une ville, doit aussi pouvoir trouver du travail, et c'est très courageux justement les personnes qui sont à côté du sportif, parce que voilà, quand il y a une contre-performance le week-end, comment on la gère, quand on tire la tronche le dimanche, mais il faut quand même changer les couches. Donc c'est toujours un peu délicat en fait d'arriver à la fois à vivre une vie professionnelle de rugbyman ou en tout cas de sportif de haut niveau. Mais plus on avance dans le temps, je pense, et c'est un petit peu ce qu'incarne Maxime aujourd'hui, c'est une forme de maturité. Et puis les choix, tu ne les fais plus par rapport à toi-même, tu les fais par rapport à ta femme, par rapport à tes enfants, par rapport à la vie sociale qui peut être mise en place, par rapport au cadre de vie, au-delà de la bouffe, hein, parce que je pense qu'à Bayonne, on y vaut bien. Mais c'est vrai que ces choix-là, ils sont, c'est pas les mêmes à 20 ans, à 25 ans, ou à 30 ans, ou à 33 ans, comme le fait Maxime. Moi, ma question, Maxime, c'est savoir, tu pars, je pense que tu arrives au Racing à 20, 23 ou 24 ans. Pourquoi ce choix, le Racing 92, qui à l'époque était voilà, déjà depuis 2-3 saisons en top 14, pourquoi ce choix du Racing 92 à l'époque ?
C'est rigolo parce que j'avais deux choix à faire. Enfin, j'avais deux possibilités à cette époque-là quand je partais d'Agen. J'avais la possibilité soit de continuer l'aventure avec Christophe Delo et Christian Lanta qui ont rejoint Bayonne d'ailleurs. Donc j'avais cette possibilité d'aller là-bas, mais j'avais aussi celle du Racing. Et en fait, à cette époque-là, je regardais là où je pouvais le plus jouer, où et la concurrence aussi était importante. Je sais qu'à Bayonne, il y avait Mike Phillips qui était bien installé, qui est un joueur de beaucoup d'expérience, qui avait un certain statut, donc qui avait, je pense, plus de possibilités de m'inscrire dans le projet du Racing parce qu'il y avait une concurrence peut-être qui était moins forte, même parce que voilà, ce n'était pas des joueurs internationaux. Il y avait Sébastien Desconce qui était à l'époque là. Et peut-être que je me suis dit, voilà, et le Racing, c'était un club prestigieux aussi, qui avait beaucoup d'ambition et qui, voilà, peut-être. C'était un choix que j'ai fait. En tout cas, je pense que c'était le meilleur choix que j'ai pu faire.
Justement, je reviens sur ce que Raphaël disait tout à l'heure. Maxime, je crois savoir que ton épouse Sophie, qu'on salue au passage, a un rôle important dans la gestion de ta carrière. Tu confirmes ?
On s'est rencontrés très tôt. Donc forcément, j'avais 17 ans quand je l'ai rencontrée. Mais forcément, elle m'a suivi tout au long de ma carrière. C'est que... qui a entre guillemets mis ses études entre parenthèses alors qu'elle avait beaucoup d'ambition professionnelle aussi. Elle m'a suivi à Agen, qui a été un moment difficile parce qu'elle s'est dit que professionnellement, ce n'était pas le meilleur endroit après avoir fait une école de commerce pour s'épanouir. Donc, elle a quand même travaillé, a eu toujours essayé d'avoir une vie professionnelle très épanouie parce que c'était important pour son équilibre aussi à elle et pour nous. Et c'est vrai qu'on a rejoint Paris, elle s'est dit qu'enfin, elle allait pouvoir s'exprimer professionnellement, mais on avait aussi l'envie d'avoir des enfants. Donc, tout ça a fait qu'elle a mis sa carrière professionnelle à côté et que c'est sûr que c'est mon équilibre. Ma vie personnelle, ma vie familiale, c'est mon équilibre. C'est comme ça que je me sens bien sur le terrain. Et c'est une personne qui... ma famille, c'est tout pour moi. Donc voilà, le rugby, c'était aussi tout pour moi. Donc j'arrive à allier les deux. Et en tout cas, ce choix aussi de Bayonne, on l'a fait ensemble et avec des enfants maintenant, parce que aussi, je pense qu'ils sont assez grands pour comprendre. Et cet équilibre familial, si je ne suis pas heureux, moi, sur le terrain, ça se voit direct. Donc c'est pour ça qu'on voit ensemble.
Juste pour savoir comment elle réagit le lendemain de match, justement, j'en parlais dans ce que je disais juste avant, comment elle réagit quand il y a une contre-performance. Je vais pas parler de la blessure, enfin, tu as connu des blessures aussi, mais comment elle réagit le lendemain, comment on fait quand on est femme d'eux. Alors, ouais. Si tu peux parler, non pas à sa place, mais quand il faut gérer les enfants, et on sait que les contre-performances, en général, le lendemain, tu accuses un peu le coup. Alors toi, comment tu fais pour couper, et elle, comment elle fait aussi pour gérer cette période-là?
Mais quand je n'en avais pas d'enfant, c'était plus difficile parce que les enfants te font relativiser beaucoup de choses. Quand tu rentres d'une défaite, c'est eux qui te redonnent le sourire très rapidement. Après, elle connaît pas grand-chose au rugby, donc elle s'immisce pas dans les résultats. Elle me parle pas de mes performances entre guillemets, juste de mon ressenti, comment je me sens, si j'étais épanoui, si je suis heureux, c'est ça qui lui compte le plus. C'est sûr, après, elle sait que ça me prend à cœur vraiment. Elle m'a toujours connu en étant. Je fais beaucoup de sacrifices pour le rugby et forcément, des fois, quand tu n'es pas récompensé, elle a aussi un peu mal pour moi. Donc, elle m'aide beaucoup psychologiquement. Elle sait quand j'en ai besoin, quand il faut que je me parle, quand il faut me laisser un peu tranquille, quand j'ai besoin d'aller faire mon sport aussi de mon côté en plus pour que ça me tête. Donc, voilà, on se comprend. Très bien, c'est comme je dis, c'est mon équilibre et c'est comme ça que je pense aussi qu'elle a été. C'est grâce à elle, à chaque fois je le dis, que j'ai réussi une belle carrière parce qu'elle me comprenait beaucoup, elle comprend tous les sacrifices que je fais, elle les acceptait aussi parce que c'est pas évident, je pense, de vivre avec un sportif de haut niveau et surtout, je pense pour ma part, qui prend les choses beaucoup à cœur, qui m'entraîne beaucoup, qui fait beaucoup de sacrifices en dehors du terrain. Et je pense qu'elle arrivait à comprendre tout ça et qu'elle a réussi aussi à mettre sa carrière professionnelle de côté. Et depuis maintenant depuis 2 ans, là, elle a voulu s'épanouir professionnellement. Donc aussi, je l'accompagne à monter sa propre entreprise pour que ça soit un équilibre aussi maintenant.
On va pas se mentir, hein, Max, t'es quelqu'un de très, très exigeant avec les autres et avec toi-même. Et je trouve que tu rends un bel hommage à ton épouse parce que, pour être très clair, un sportif de haut niveau aussi exigeant que toi, ça peut être pénible quand même au quotidien. Ça peut être fatigant pour une famille, pour une épouse, non?
Mais je m'en rends compte. Je le sais, ouais, que c'est pas tout le temps facile, mais elle a compris pourquoi je le faisais. Après, moi aussi, des fois, j'essaie de trouver mon équilibre à moi parce que des fois, peut-être que je vais un peu trop dans l'excès. Donc, c'est elle qui me régule, qui me dit ouais, mais est-ce que vraiment ça t'en a besoin? Donc, toujours en essayant de comprendre pourquoi je le fais. Et voilà, c'est un soutien. Mais je sais que je ne suis pas facile au quotidien, qu'à chaque fois qu'on part en vacances, et bien, j'ai besoin de penser à mon alimentation, à mon entraînement. Et que je lâche jamais. Et ça, peut-être que ça peut être difficile pour elle avec l'expérience. Je pense que les enfants m'ont fait, par contre, énormément de bien de ce côté, ça m'a permis de relativiser quand même beaucoup de choses.
On va parler un petit peu du futur, on va parler de Bayonne, parce que tu as quand même évoqué notamment la ferveur de Jean Daugé, la ferveur d'une ville, hein, qui vit beaucoup pour le rugby. C'est vrai que le Racing a d'autres qualités, mais n'a pas cette spécificité où vous vivez quand même dans un anonymat relatif. C'est quelque chose qui t'a manqué durant ces 10 ans au Racing, cette ferveur qui peut entourer une ville comme on peut vivre à Biarritz, à Bayonne, à Toulouse?
Ça n'a pas forcément manqué parce qu'au Racing, il y a tellement d'autres choses à côté qui sont fantastiques. On a son entraînement qui est exceptionnel. J'ai côtoyé des joueurs que jamais j'aurais côtoyé peut-être dans un autre club. Donc ça compensait le fait qu'il n'y ait pas une énorme ferveur au niveau de la ville, au niveau du... Mais forcément, j'avais envie de connaître ça avant la fin de ma carrière aussi, de connaître peut-être un stade à guichet fermé tous les week-ends quasiment, ou voilà, de parler un peu ce que j'ai connu au début de ma carrière à Agen aussi, quand on te parle de rugby, parce que ça ne me dérange pas forcément qu'il y ait cette pression populaire au niveau du club. Je dis au Racing, j'ai trouvé d'autres choses au Racing qui ont été exceptionnelles, donc ça ne m'a pas forcément manqué, mais j'avais envie de le connaître avant la fin de ma carrière. Il
ne faudra pas perdre le derby basque si toutefois il y a un derby basque l'an prochain quand même.
Non, mais c'est sûr qu'il y aura... Voilà, c'est ça qu'on recherche aussi, cette adrénaline d'un joueur de rugby et de connaître des matchs avec cette pression, c'est exceptionnel.
Vous avez ce point commun, Raph, toi aussi, à l'époque où tu jouais au Stade français, c'était dans un anonymat total.
Mais après, est-ce que ce n'est pas typique de Paris? Et je vais poser la question à Maxime. En fait, tu te retrouves à Paris aussi où tu as plusieurs sports. Et le rugby nous découvrait professionnel. On arrive avec Max qui prend le club qui est dans les bas-fonds de la 3e ou 4e division. Et donc, en 99, oui, on joue devant 2000, 3000, 4000 personnes. On finit en demi, enfin, on finit. Moi, j'arrête ma carrière en 2005 avec trois Parcs des Princes pleins comme un œuf. Donc, c'était assez magique. Mais je pense que Maxime l'a connu aussi au Racing où Yves du Manoir a été bien plein aussi. Peut-être un petit peu moins avec la U Arena. Mais la U Arena, moi, je l'ai vu rempli aussi. C'est vrai qu'il y a cette ferveur que, voilà, que moi, je n'ai pas connue à Beauvais, que je n'ai pas connue à Paris. Et après, j'ai arrêté. Mais quand on voit le parcours de Maxime, quant à Agen, le stade est plein et vit vraiment rugby avec des supporters qui peuvent parfois être lourds, hein. Mais tu as toute cette, voilà, tu as toute cette ferveur aussi. Ça peut aussi manquer. C'est clair qu'au début, moi, à mes débuts, voilà, je dirais, je m'enrichissais des publics, mais à Bourgoin, à Perpignan ou ailleurs où c'était plein. À Paris, oui, c'était un petit peu plus, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'il y a le football, parce qu'il y a le hand, parce qu'il y a le basket, puis il y a tellement de sports. Et puis, c'est 4 millions, 5 millions de personnes. Donc, ouais, le rugby se développe bien. Au Racing, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ouais, je te comprends, Maxime, sur l'envie aussi de retrouver un public chaque week-end, quoi. C'est essentiel dans la vie d'un sportif, ouais.
J'ai une anecdote à propos de ça. C'est vrai que quand elle était championne de France au New Camp à Barcelone, elle est arrivée au Plessis Robinson le lendemain. Bon, forcément, pas un gros engouement au Plessis Robinson quand on est arrivé. Donc, limite, un peu dans l'anonymat complet, il y avait peut-être une trentaine de supporters. Et le soir même, on sort en boîte de nuit dans Paris avec le bouclier de Brennus. Et forcément, le bouclier de Brennus, on arrive dans la boîte de nuit, on s'est dit, bon, on va le mettre où? Il faut le garder quand même, parce que les mecs, on l'a posé sur une banquette, il est resté toute la soirée sur la banquette, personne ne faisait attention au bouclier de Brennus, quoi. Personne ne savait ce que c'était ce truc. Les mecs, ils se demandaient pourquoi on se balade avec un bout de bois dans Paris. Donc, c'est ça qui fait que ça manque un peu de. Quand tu gagnes pour le groupe, pour toi. Et bien sûr, il y a des supporters qui sont attachés au club, qui sont là et qui nous soutiennent. Donc, ça, il faut pas non plus. Mais ils sont pas très nombreux. Et forcément, ça peut manquer dans les moments comme ça où tu gagnes un titre, où la place du Plessis Robinson, est, bien sûr, était toute petite. Donc, ça suffisait, elle était pleine, mais c'était pas.
Mais c'était pas la rade à Toulon, c'était pas à Agen où tu peux imaginer la vie dans l'Yes. Nous, on descendait dans une Volvo 70, donc des cabriolets. On avait le bouclier sur les Champs-Élysées et les Chinois nous prenaient en photo, mais pas du tout parce que ils savaient ce qu'était le bouclier de Brennus. C'est même des Français qui nous demandaient, mais qu'est-ce que c'est que ce bout de bois? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et t'es quand même, voilà, tu viens d'être champion de France. La France entière sait que t'as gagné, mais t'as juste cinq personnes, dont trois qui ne savent pas qui tu es. Donc, c'est comme ça, hein.
Tu parles du titre, Max, justement, on va faire un petit flashback sur tes années Racing. Ça reste l'apogée de ta carrière et est-ce que ça reste quand même un bon souvenir, cette finale, malgré, on le rappelle, que tu avais été victime, enfin victime, en tout cas, tu avais écopé d'un carton rouge pour un plaquage sur Matt Guiteau?
Je pense, en tout cas, c'était un peu le. On avait une équipe redoutable à cette époque-là, quand on y pense, on avait des joueurs exceptionnels. Bien sûr, en premier, Dan Carter qui nous avait rejoint, qui avait une influence incroyable avec des Chris Mazoué, des Mauchi Carrizza, des Joe Roccozocco. En fait, beaucoup de joueurs d'expérience qui nous emmenaient, nous, j'étais un peu plus jeune, donc qui nous emmenaient vraiment dans les meilleures conditions pour évoluer. C'était des joueurs exceptionnels au niveau de l'expérience, du charisme. Donc, le Racing avait vraiment une équipe, je pense, où on était, même si on a eu des concours de circonstances, on gagnait Clermont à la dernière minute, on gagne Toulouse en barrage aussi. Donc, tout nous réussissait à cette époque-là. Après, moi, personnellement, je pense que j'étais encore en plus grande forme en 2018 quand on arrive en finale à Bilbao, où malheureusement, je me blesse avant la finale. Là, je pense que rugbystiquement, j'étais, juste avant de me blesser d'ailleurs les ligaments croisés, j'étais en pleine forme au niveau de l'expérience, au niveau. Donc, voilà, il y a eu des moments, des hauts, des bas dans ma carrière au Racing. Et bien sûr, ce titre de 2016 était quelque chose d'exceptionnel. Je suis passé par toutes les émotions aussi. Donc, il y a une certaine frustration de ne pas avoir connu toute la finale, de pas. Mais est-ce qu'on l'aurait gagné? Est-ce que, voilà, c'est. Je n'ai pas non plus de regrets. Ça restera un souvenir, un beau souvenir en tout cas, dans ma mémoire.
C'est marrant parce qu'en 2015, le Stade français, à 14 contre 15, au Racing, vient gagner et finit champion. Et à 14 contre 15, comme quoi ce supplément d'âme, et c'est pour ça que les groupes sont hyper importants, peut te faire vivre des exploits assez retentissants. Juste un point négatif qui avait eu lieu lors de cette finale au Camp Nou, quand même, c'est qu'on avait failli perdre Dimitri Sarzeski, quand même, qui avait pris un câble de caméra dans le museau. Vous avez failli commencer à 13 contre 15. Oh, et puis il y a une photo aussi qui tourne où il la prend, mais plein fer comme ça.
J'étais juste derrière, et limite en engueulé le mec parce qu'il aurait pu ne pas faire la
putain,
finale.
Mais tu peux le perdre.
C'était violent ce câble.
Nom de Dieu.
Justement, juste parce que tu l'as évoqué, les trois finales de Coupe d'Europe perdues, ça reste un regret ou c'est aussi un espoir de partir peut-être sur un trip européen, de quitter le Racing? C'est un rêve, ça?
Bien sûr, c'est un rêve. Peut-être qu'à Bayonne, j'espère qu'un jour, on jouera la Grande Coupe d'Europe, mais en tout cas, on n'est pas encore prêt à pouvoir... si je dois la gagner, c'est peut-être cette année. Si on ne l'a pas gagnée avant, c'est qu'on ne devait pas la gagner, c'est qu'on n'a pas mérité. Donc,
c'est pas passé loin quand même la deuxième année.
Oui, bien sûr. J'ai aussi eu des mauvaises expériences par rapport à ça. Ma première finale, je sors au bout de la 20e minute par KO. La deuxième, je me fais les ligaments croisés la semaine d'avant. Et la dernière, j'étais remplaçant où on connaît l'issue d'Exeter, où c'était une finale très dure à accepter parce que je pense que c'était la finale qu'on pouvait gagner le plus. Mais il n'y a pas de regret. J'ai encore une chance de la gagner cette année.
Vous êtes dans les clous, en tout cas.
On est bien placé pour l'instant, mais bon, ça va très vite, cette Coupe d'Europe.
Allez, parlons un peu de ta carrière internationale. Raph l'a dit en préambule, 38 sélections, des hauts, des bas. On aimerait revenir, Max, sur 2015 notamment. Le sélectionneur de l'époque, Philippe Saint-André, avait fait le choix de ne pas te retenir pour cette Coupe du Monde en Angleterre, alors que tu avais été titulaire tout le long du début du mandat avec Fred Michalak, et c'était une charnière qui tournait plutôt pas mal. Comment tu as vécu cet épisode? Je crois que ça avait été un coup dur quand même. Tu t'étais recentré sur le Racing. Je crois que Toto et Lolo, donc Laurent Travers et Laurent Labitte, avaient eu, à titre personnel, je le juge comme une intelligence, de te nommer capitaine, comme pour mieux te rebooster peut-être. Comment tu avais vécu ce passage?
C'est vrai que ça avait plutôt bien démarré. J'avais connu ma première sélection donc, sous l'ère Saint-André en 2012.
En Argentine, hein.
En Argentine, où, pour mon premier match, on avait perdu le premier, j'avais pas joué, mais le deuxième match, on avait gagné de 40 points. C'était ma première sélection avec Fred Michalak, qui était un de mes idoles aussi quand j'étais jeune. Donc, tout me sourit au début. C'est vrai qu'on gagne la tournée de novembre, on gagne trois matchs. Et le premier match du tournoi en Italie, où on le perd, ça a été un gros coup sur la carafe pour tout le monde parce que on avait gagné cette tournée de novembre où on a mis 32 points aux Australiens. On s'est dit... Donc, c'est vrai que le début sous l'ère Saint-André, il y avait eu des hauts et des bas. Et de ne pas être retenu à la Coupe du Monde en 2015, ça a été... Après, je l'ai senti venir parce qu'il y avait la naturalisation de Rory Cocotte où tout le monde parlait de cette naturalisation. Tout le monde attendait de pied ferme qu'il soit éligible pour le 15 de France. Forcément à juste titre, il avait gagné avec Castres le chemin de France, il était en pleine très bon. Là où j'ai un peu plus de regrets, c'est que si j'avais fait cette Coupe du Monde des Clans, est-ce que j'aurais fait celle de 2019 aussi? Donc voilà, j'ai pas forcément de regrets. Si je l'ai pas faite, c'est que je méritais pas d'y être, et ça n'a pas été non plus quelque chose de dramatique pour moi. Je l'ai relativisé. Et j'ai essayé au contraire d'aller de l'avant. Et forcément, c'est là où on se réfugie sur sa famille, sur aussi le Racing, qui était pour moi aussi ma seconde famille et qui m'ont énormément aidé dans ce moment-là. Ouais. Et ça, je leur remercie que le Racing a toujours été une aide précieuse pour moi.
C'est là où c'est important, et là, la question à vous pour vous deux, parce que Raph, tu as connu des hauts et des bas également, mais c'est là où c'est important d'avoir un entraîneur avec qui, finalement, on tisse des liens forts, parce que... j'ai souvenir quand même de Laurent Labitte qui, sur un match de début de saison où tu avais dépanné en 9, en 10, je me demande si tu n'avais pas fini au talon, enfin j'exagère un peu, mais il avait dit Machno, c'est mon couteau suisse, il faut toujours avoir un Maxime Machno dans son équipe. Et c'est vrai que des mots comme ça, après une grosse déception, j'imagine, Max, que c'est quand même c'est important.
Oui, c'est vrai que j'ai une relation avec Laurent Labitte qui était très forte. Qui est quelqu'un qui, forcément, n'exprime pas forcément trop ses sentiments, mais qui, Je sais qu'on s'apprécie mutuellement. On a adoré travailler l'un avec l'autre. Il était d'une aide précieuse. Il a toujours su me mettre en confiance, toujours su savoir comment me prendre aussi quand j'allais moins bien, quand au contraire ça se passait bien. Donc voilà, ce duo d'entraîneurs que j'ai connu pendant longtemps a été une aide importante. Et c'est pour ça que j'ai pu faire aussi cette carrière aussi longue et aussi régulière dans un grand club.
T'as connu ça, Raph, toi aussi?
J'ai connu ça, moi, avec John Connolly, oui, en 2000-2001. En fait, Bernard Laporte, en 99-2000, dit avec 100 kilos, tu seras le meilleur et je vais te faire passer de l'arrière à l'aile. Et je me suis retrouvé à un poste où tu passes de brancardier à videur de boîte, quoi. Enfin, c'est pas du tout les mêmes, je dirais, c'est pas du tout les mêmes compétences. Et John Connolly, en fait, me dit, on va travailler ensemble, je vais te remettre à l'arrière. Et c'est une année, justement, c'est l'année où j'explose, où je suis aux portes de l'équipe de France. Après, on connaît l'histoire. Mais oui, l'importance du manager, on le voit avec Christophe Furios à Bordeaux, on le voit sur ses managers. Comme Lolo Travers aussi, hein, aujourd'hui, qui est quand même le directeur du rugby au Racing. À ce côté, on a besoin d'avoir aussi, dans les moments compliqués, d'avoir ce soutien-là qui, en fait, aussi nous fait grandir et de savoir, en fait, que les mecs nous font aussi confiance malgré une contre-performance. Fabien Galthié, je pense qu'il, lui, à ses débuts, c'était plus compliqué. Aujourd'hui, on remarque qu'il sait se remettre en question. Il l'a fait notamment avec Jaminet, qui loupe cette dernière passe contre l'Australie et qui lui refait confiance sur le match d'après. La France gagne contre l'Australie sur le second match. Donc on a besoin d'avoir ce soutien. Moi j'aimerais savoir, Maxime, comment tu as vécu justement au Racing avec Lolo Lavit, parce que le Racing a quand même une image un petit peu décalée par rapport au monde du rugby qui se veut un peu, je dirais pas village, mais le côté terrien. Le Racing a cette image un petit peu décalée, et avec Lolo Lavit et Lolo Travers, pour les connaître un petit peu, il y avait, voilà, ils étaient passés quand même par Castres et par Montauban aussi, et Montauban. Est-ce qu'ils n'ont pas amené aussi un petit peu au Racing ce côté terroir qui aurait pu manquer au Racing à un moment donné? Sur les valeurs, je parle, tu vois, t'as connu Agen, justement, qui est quand même un club historique, sur ces valeurs-là. C'est important aussi d'avoir des mecs qui incarnent le rugby dans un club, justement, qui avait certes brillé dans les années 90, mais qui avait besoin d'avoir une identité, qui a créé son identité, mais aussi ce rugby qu'on aime.
Oui, bien sûr. Je pense que chacun apporte un peu sa touche. Le Racing a une forte identité, bien sûr, par son histoire de showbiz, d'un club assez propre. Et forcément, d'amener des personnes un peu de milieux différents, d'univers différents, qui ont connu des clubs aussi avec une histoire différente. Mais je crois aussi qu'il faut s'adapter surtout à l'histoire du Racing. Plus que amener sa touche, le Racing restera toujours Racing. Que si moi je sais que je m'en vais l'année prochaine, il y aura d'autres joueurs qui vont représenter un peu cette identité. Il faut pas la renier. Après, chacun arrive avec aussi son histoire, sa culture et apporte aussi quelque chose de différent. Mais je pense que c'est plus aux joueurs ou aux entraîneurs à s'adapter à la culture du Racing plutôt que l'inverse.
Est-ce que tu peux nous parler de Jackie Lorenzetti? Pour moi, c'est un personnage, moi, il m'a fait confiance en 2007-2008. J'ai pas fait un match au Racing, mais c'est quelqu'un qui est aussi atypique et aussi peut détonner, venant du monde entrepreneurial, arrivant au Racing qui était au fond de la gamelle et qui en a fait une machine de guerre aujourd'hui. C'est quand même un personnage qui détonne dans le monde du rugby et qui est pourtant très, très attachant pour l'avoir connu, même si je fais une fin d'année où on n'était pas d'accord sur certains trucs. Mais Jackie reste Jackie Lorenzetti et détonne dans le monde du rugby et fait que ce que le Racing aujourd'hui est une, je le répète, une machine de guerre quand même. Tu peux nous parler un peu de ton rapport avec lui? Je sais que Jérôme Filliol, qui était passé aussi à garder des liens d'amitié avec lui, c'est quand même quelqu'un de très généreux au-delà de l'oseille. Hein.
Oui, exactement. C'est quelqu'un qui est entier, qui vit pour son club, qui fait énormément de choses pour les joueurs aussi. Au-delà de son côté businessman qui est présent et qui est là parce que c'est comme ça qu'il a réussi. C'est quelqu'un qui est humainement aussi, qui a de fortes valeurs au niveau familial, au niveau... de son club restera toujours son club et il met quand même en avant de se mettre lui en avant. Donc c'est ça qui est, moi je trouve, voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour ce président parce qu'il amène toujours de la nouveauté, toujours il a beaucoup d'ambition, il s'arrête pas à mettre des moyens, il essaie de toujours que les joueurs se sentent bien aussi, et ça forcément c'est pas donné à tout le monde. Il a ce côté humain que voilà, peut-être qu'on ne voit pas trop, mais nous, en tant que joueurs, dans les moments difficiles, il nous soutient quand même énormément. Il n'est pas toujours là à gueuler. Il sait quand il faut le faire, il sait quand les joueurs ont besoin aussi de soutien. Et ça, je trouve qu'il est assez juste dans ses paroles et dans tout ce qu'il nous apporte.
Il est finalement assez loin de l'image qu'il renvoie médiatiquement, j'ai l'impression, Max. Dis-moi si je me trompe, mais il a une image parfois un peu froide, un peu tueur, businessman. Hein, et il n'est pas arrivé là par hasard. Hein, il s'est construit à la force du poignet. Mais finalement, de tous les témoignages qu'on peut recueillir, on a le sentiment que dans l'intimité, il est très loin de cette image-là.
Ouais, c'est pour ça que moi, en ayant passé 10 ans au Racing, en essayant de, même si voilà, il y a la relation président-joueur qui, moi, j'essaie de la garder, et que je trouve que c'est important aussi de garder certaines barrières. J'ai appris à le connaître et à savoir que, comme je dis, il est très 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 humain et très famille aussi. On sait qu'il est beaucoup attaché à cet aspect familial et c'est pour ça qu'au Racing, avec on se sent comme dans un club familial, quoi, où malgré le fait qu'on soit à Paris, qu'on ait un peu ce côté businessman, ou un peu ce côté aussi du club business, ben non, ça reste un club familial où on s'y sent bien et je pense que le président il est pour beaucoup.
Justement, la transition est toute trouvée. Max, tu donnes l'impression d'être quelqu'un d'assez pudique, d'assez secret. Très enclin à préserver ton intimité. Hein. On se trompe ou parce que contrairement à d'autres, c'est vrai que tu n'étales pas ta vie sur les réseaux sociaux, t'es pas... c'est une volonté ou c'est quelque chose de très naturel pour toi finalement?
En fait, moi, je suis très, très famille. Donc moi, je me suis fié souvent à moi et mes enfants et ma femme. Donc c'est vrai que des fois, il faudrait que je m'ouvre un peu plus ouais, parce qu'on est dans un sport collectif aussi où... Mais depuis que j'ai mes enfants, c'est vrai que je passe énormément de temps avec eux, parce que je m'y sens bien, parce que c'est mon équilibre. Les réseaux sociaux, je m'en sers, mais voilà, j'essaie de montrer un peu ce que j'ai envie de véhiculer, mon image, c'est d'un sportif de haut niveau qui fait beaucoup d'efforts pour avoir une carrière assez régulière, assez constante. Et voilà, je suis pas le plus grand bringueur, je suis pas le mec le plus...
Est-ce que des partenaires te l'ont reproché parfois?
Ouais, à certains moments, c'est pour ça.
Ah oui?
Ouais, c'est vrai que...
Ils en avaient marre de devoir peser ton plat de riz et ton plat de brocoli?
Non, ouais, peut-être qu'ils pensent que j'en faisais un peu trop, que j'étais un peu dans l'excès, et peut-être forcément qu'ils en avaient raison. Donc j'écoute aussi, j'essaie de... Et je suis un poste aussi où j'ai besoin de partager des choses. J'ai besoin, donc, par moments, je sais le faire aussi, mais... Voilà, j'ai plus ce côté professionnel qui m'intéresse à moi aussi, c'est mon équilibre et voilà, ils sont capables de le comprendre. Donc c'est un équilibre à trouver.
Raph, toi, tu étais plutôt aux antipodes, non? Plutôt
Non, moi j'étais extraverti, mais après c'est pas du tout le même caractère et c'est d'ailleurs aussi peut-être pour ça que j'ai fait ce peu de carrière. J'ai fait 7 ans professionnel et je suis très très lucide sur mon parcours. Bon, ce qui me fait chier, c'est de l'avoir pris conscience après coup, mais tu vois cette force de caractère, mais qui est un petit peu typique des numéro 9. Je pense à Baptiste Couillou, à toi Maxime Lucu, Antoine Dupont, je pense à Jérôme Fiol. Faut avoir cette force de caractère, je pense ce côté jusqu'au butiste qui est le côté leader hyper pro qu'on retrouve chez chacun d'entre vous. Je suis assez admiratif moi de ces mecs personnellement parce que je l'avais pas, moi, cette fougue et ce côté hyper pro et l'abnégation. Enfin, moi, je voulais savoir. Alors, c'est typique des numéros 9, ce côté caractère, et puis ce côté hyper professionnel. Je peux pas parler de... Moi, j'ai connu une autre génération. Moi, savoir, Maxime, quel a été tes référents? Est-ce qu'il y a un mec qui t'a fait rêver ce sport, qui t'a fait aimer ce sport? Est-ce qu'il y a une figure tutélaire dont tu pourrais nous parler, mais qui peut être un entraîneur que tu as découvert en junior, en cadet? Voilà, enfin, tu me parlais de Delo, quand même, qui est quand même un mec qui enfin, moi, j'adore ce mec. Je trouve qu'il incarne des valeurs et je trouve qu'il a un regard sur le rugby qui est absolument hallucinant. Mais est-ce que tu as un mec en particulier qui t'a fait devenir ce que tu es? Je sais que ce sont des rencontres au fur et à mesure, mais est-ce que tu as un mec en particulier dont tu aimerais nous parler, justement, qui t'a fait aimer ce sport et être ce que tu es aujourd'hui avec cette force de caractère et au-delà du côté hyper professionnel?
C'est rigolo, j'ai pas quelqu'un en particulier. J'ai essayé de prendre un peu le bon de tout le monde. Je pense qu'on peut apprendre de n'importe qui. Il y a toujours quelque chose à apprendre chez quelqu'un, à discuter. C'est vrai que tu parlais de Christophe Delo. Christophe Delo était un entraîneur que j'admirais par son caractère. Il avait un caractère hors du commun, sincèrement. Il est de travailleur. Il dormait presque au club à Arlandi. Enfin, il se faisait sa muscu tous les matins. C'était alors que C'était quelqu'un qui, voilà, Christian Lanta, que j'adorais, qui était aussi complètement différent de Christophe Delo, mais qui avait ce côté un peu prof qui, moi, qui me fascinait parce qu'il savait comment prendre des mecs, il savait comment leur parler. Comme joueur, j'adorais Fred Michalak. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de connaître la première sélection avec lui parce que ce côté insouciant qui, moi, me fascinait parce que j'étais à l'opposé de ça. C'est quelqu'un qui s'amusait tout le temps. On a l'impression que c'était... Donc, je pense qu'il y a du... apprendre de tout le monde et le meilleur de tout le monde et comme ça essayer de voir que... Et après, je ne pense pas qu'il faut trop copier, il faut être soi-même. Je ne serai jamais un tel ou un tel, mais prendre un peu de tout le monde, apprendre de chacun, et c'est ce que j'ai envie encore de faire. C'est-à-dire que je vais arriver à Bayonne, j'ai envie encore d'apprendre des choses et pour évoluer encore. Je crois toujours qu'on peut évoluer, que je peux être encore meilleur, que ma carrière peut être encore, voilà, être encore plus longue pour essayer de faire des belles choses et d'avoir aucun regret à la fin.
Max, on parlait de ton côté pudique, de la façon dont tu préserves ton intimité. Je voudrais revenir sur un épisode un peu douloureux. En 2018, tu as eu la douleur de perdre ton papa au matin d'un match contre l'Union Bordeaux-Bègles. Et pourtant, tu as pris la décision, en concertation avec tes entraîneurs à l'époque, de jouer ce match. Que tu accepterais d'évoquer ce moment et comment et pourquoi tu as fait ce choix, enfin comment tu as réussi ce tour de force de jouer quand d'autres, probablement, moi le premier, on aurait pu s'écrouler.
Oui, c'est le moment que je peux parler parce que ça m'a fait grandir au niveau d'homme. C'était une épreuve. Après coup, je l'aurais pas refait, j'aurais pas rejoué ce match parce que j'étais dans ma tête, j'étais pas là. Au-delà de ça, c'était mes 30 ans. C'est le jour de mes 30 ans. Donc
et tu étais capitaine en plus ce jour-là.
Oui, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que je l'ai joué, mais avec du recul, je pense que je ne l'aurais pas refait. Si je l'ai fait, c'est que j'en avais. Je pense que je l'ai fait pour lui. Ça a été le moment le plus douloureux de ma vie, mais encore une fois, ça te fait relativiser beaucoup de choses. Je pense que je suis un autre homme après ça. Et chacun connaît des moments difficiles dans sa vie et ça en fait partie. Mais ce qui va me permettre de me forger en tant que papa, en tant qu'homme et d'évoluer. Donc voilà, c'était un moment très douloureux. Et comme je le dis, je remercie aussi le club qui m'a soutenu énormément dans ce moment. C'est-à-dire qu'ils ont accepté le fait que j'avais envie de jouer alors que je n'ai pas donné le meilleur de moi-même et ce qui était difficile. Et voilà, c'est...
Et c'était un match à Bordeaux en plus, club que ton papa suivait assidûment.
Et je pense que c'est pour ça que j'ai joué, c'est parce qu'il y avait toute ma famille dans les tribunes et que j'avais préféré peut-être évacuer ce moment comme ça en jouant au rugby, et peut-être pas penser à autre chose que, même si, encore une fois, je répète, j'étais absent de ce match.
Alors, très rapidement, tu vas bientôt avoir 34 ans, Max. Comment t'imagines ton avenir ? C'est quoi l'après-rugby de Max Machenot ?
Ouais, c'est vrai qu'on parle souvent d'âge au rugby, ce qui est logique au sport de haut niveau. On dit à 33 ans, 34 ans, tu commences à être en fin de carrière. J'ai pas forcément envie de parler d'âge, j'ai forcément envie de parler de ressenti au niveau mental, de fraîcheur physique ou mentale, parce que c'est ça qui te dirige si t'es prêt à arrêter ou si t'en as plus envie.
On le voit avec Sergio Parisse, dont on parle d'une éventuelle prolongation à 38 ans.
Non, mais c'est pour ça. Si le joueur est performant, se sent bien mentalement, physiquement et est toujours compétitif, pourquoi parler de son âge ? Enfin, après, bien sûr, dans le sport du niveau, c'est normal qu'on récupère moins vite. Et encore, je pense qu'au contraire, avec l'expérience, on se connaît davantage. On sait comment mieux récupérer, on sait comment mieux se préparer, mieux s'entraîner. Donc voilà, j'ai bientôt 34 ans, enfin je viens d'avoir 33 ans.
T'as du mal à le dire, hein.
Ouais, voilà, c'est pour ça, je me laisse encore la possibilité de jouer encore longtemps. Mais c'est sûr qu'un jour, la fin de ma carrière viendra et ça sera un moment où j'aurai envie de continuer à transmettre. Donc je resterai sûrement dans le milieu du rugby, parce que c'est le milieu qui me fait rêver encore, qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Et je pense que même si ma femme peut-être en aura un peu marre du rugby, Mes enfants, non. En tout cas, ils ont envie que je continue encore le plus longtemps possible.
On parle souvent de la petite mort du sportif, c'est quelque chose qui te fait peur. On en parle souvent avec Raph, avec nos invités. Moi, j'ai souvenir de cette phrase de Dimitri Yachvili qui avait dit « Non, ce n'est pas une petite mort, c'est une vraie mort. » Et il disait « Moi, je l'ai pris en pleine gueule, ça a été très, très dur.
Ouais, » Oui, je pense que… Je pense que ça peut être difficile. C'est pour ça qu'il faut un soutien psychologique, que ce soit l'entourage, que ce soit peut-être extérieur aussi, pour arriver à faire la bascule. Parce que tout le monde, si tout le monde en parle, c'est que c'est la vérité. Donc il ne faut pas le nier, il ne faut pas fermer les yeux, se dire ouais, moi j'ai bien préparé l'après-carrière, je sais ce que je vais faire. Oui, tu sais ce que tu vas faire, mais par contre, tout ce que tu as eu pendant toute ta carrière, tu ne l'as plus et il va falloir compenser. Je pense que tu ne compenses jamais le fait d'être acteur de ta vie, que tu penses qu'à toi, tout est fait pour toi, tu es un peu le centre de la terre et du jour au lendemain, au contraire, il faut se lever tous les matins et penser peut-être à autre chose, à se dire ah ouais, c'est vrai que ça, j'ai jamais fait de ma vie, c'est un changement. Donc j'y pense, bien sûr, il faut le préparer, mais il faut le préparer mentalement, je pense, psychologiquement.
Raph, ouais. Tu confirmes, non?
Non, mais après, oui, et puis je vais conclure sur, déjà, sur l'aspect professionnel. Moi, j'avais l'impression d'entendre Diego Dominguez, qui, jusqu'à 38 ans, a fini assis sur le bouclier. C'est ce qu'on souhaite, d'ailleurs, Maxime, sur cette fin de saison, en attendant, et après, à Bayonne, de finir sur une belle touche. Mais ce côté hyper professionnel, humble, et puis toute cette approche, le côté familial, voilà, tout cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Mais c'est sociétal et c'est pour tout le monde pareil. Sauf que dans le rugby, c'est d'autant plus important, ce qu'est la notion de combat, et voilà. Et cette remise en question et cette lucidité sur l'approche mentale et psychologique, et je n'en fais pas du tout ma pub, mais on monte une association pour venir au soutien des sportifs et sportives en fin de carrière qui va être mis en lumière dans quelques mois maintenant avec Jérôme Fiol. Donc bien sûr que c'est important d'avoir ce genre de témoignage aussi pour, je dirais, le commun des mortels, parce que comme le dit Maxime, on est souvent mis sur un piédestal, et quand tu reviens dans la réalité, on en a parlé tellement de fois dans Poulain Raffut, que c'est bien d'avoir aussi la lucidité des joueurs qui sont encore en activité. En tout cas, merci Maxime, parce que moi j'ai passé un super moment.
Si je peux rajouter un truc.
Bien sûr.
C'est vrai qu'on parle souvent de l'apport psychologique à la fin de la carrière, mais c'est peut-être aussi au début, au milieu, pendant la carrière que c'est important. Enfin, moi je sais que j'en ai fait appel à un soutien psychologique, je suis allé voir une psy et j'ai pas honte de le dire, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas résoudre les problèmes tout seul. Souvent ta femme peut pas résoudre tes problèmes à ça, tes parents non plus. Donc, parce que ils sont un peu aussi acteurs du truc. Donc, de voir quelqu'un extérieur, c'est pas se dire qu'on est faible, c'est pas se dire, au contraire, c'est pour être encore plus fort. C'est dans ce sens que je le pense, c'est que si tu as besoin de voir quelqu'un, c'est d'avoir la lucidité de se dire, ouais, là, j'ai besoin d'aide parce que je veux être plus fort et que je veux m'améliorer de ce côté mental. Peut-être que c'est pas pour ça que j'étais dépressif ou tout ça, au contraire, mais c'est comment je fais pour être plus fort mentalement. Et s'il y a des gens qui sont là pour ça, pourquoi s'en priver, quoi.
Mais je suis d'accord avec toi. Tu as l'aspect professionnel, l'aspect familial, et d'avoir aussi une soupape qui te permet de prendre de la hauteur sur qui tu es, qui tu veux devenir aussi. Et aujourd'hui, il y a des leviers. Le coaching mental, la psychologie aide à ça. C'est culturel en France. On a du mal avec l'approche mentale. Mais comme tu le dis, on y vient. Et par ce genre de témoignage, d'expliquer que c'est pas de la... Et tu veux t'appuyer sur un truc, c'est t'es pas faible, en fait. C'est juste que t'es là et tu peux être là, en fait. Et que penser autrement que vulgairement avec ses couilles et son cœur, ça, c'était la génération d'avant, peut-être la mienne. Si tu mets un petit peu de tête, tu prendre la notion de plaisir, moins d'efforts psychologiques, plus de plaisir, et tu te sens bien, et tu vois, t'es épanoui, et ça se sent, t'es incarné. Donc voilà, putain, tu vas faire ma pub, je vais te prendre en égérie. Bon, en tout cas, le moment était vraiment super. Merci beaucoup Arnaud, et merci Maxime, c'était vraiment top. Hein. Arnaud.
Merci beaucoup Max. On se retrouve la semaine prochaine pour la Rafute, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous, même endroit, même plateforme d'écoute sur Eurosport et sur Rugbyrama. À très vite.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home.
both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to OSEAMalibu.com and use code MOM.